Mais tu avais pas une réunion ?
Oui, mais j'ai dit que j'avais un empêchement citoyen prioritaire.
Tu leur as parlé de l'agité du local ?
Pas besoin, ils écoutent aussi.
Et c'est sur l'autre radio.
Il va falloir oublier les longues chevelures, les chants envoûtants, les coquillages bien placés, les promesses de naufrage romantique. La sirène dans ce roman n'est pas un fantasme, elle est ce qu'il reste quand la mer a tout pris. Dans le nouveau sirénien, Jean-Philippe Goulet déconstruit nos mythes pour mieux raconter l'exil, la transformation et ce que ça coûte d'être rejeté par deux mondes à la fois, celui des humains et celui des profondeurs. Un adolescent se réveille autre, une queue de poisson, un souffle pour l'abysse, mais aucun refuge. Et au fond, la mémoire d'un drame réel, la marée noire de Lamoco Cadiz en 1978 sur les côtes bretonnes. Ici, le mythe n'adoucit rien, il révèle, il interroge. Jean-Philippe Goulet est avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci. Alors, on va parler dans quelques instants de ce que la fiction peut faire quand la réalité déborde avec votre dernier roman que l'on pourra découvrir à la librairie Emlire ce 27 juin. Et puis, on terminera aujourd'hui notre série à l'étang de papilles. Dans ce dernier épisode, Charlène nous parle de ce qui dépasse les fleurs. On parle des rencontres, du partage, des émotions qu'un lieu peut faire naître. Parce que cultiver ici, c'est aussi accueillir. Semer autrement, c'est le titre de ce troisième et dernier épisode. Et enfin, on retrouvera Soizic pour sa chronique Un autre écho de l'écho, une respiration engagée, lucide, sur nos manières d'habiter le monde. Vous le connaissez bien. Je ne suis jamais seule pour construire cette émission et je ne suis pas seule derrière le micro puisque Maxime, tu es à mes côtés chaque jour, tu m'accompagnes dans cette aventure et dans ce plaisir de faire la radio ensemble, de la radio ensemble. Comment est-ce que tu vas ?
Bonjour à tous, super, et toi Margot ?
Ben, très bien, l'auditeur de l'autre radio me félicite d'avoir fait plus bref aujourd'hui en introduction. Ton sourire me confirme ta satisfaction aussi Maxime. C'est parfait, je suis Margot, je vous donne ce rendez-vous chaque jour ici sur nos ondes avec l'agité du local. Et chaque jour l'émission commence par un entretien. Aujourd'hui nous parlons littérature, c'est parti.
Bah tu écoutes quoi là ?
Chut ! C'est l'agité du local ! Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio.
Il y a des romans qui vous happent dès les premières lignes, qui vous embarquent là où vous ne pensiez pas aller. Le nouveau Sirénien, c'est l'histoire d'un adolescent transformé par la mer, d'un monde sous-marin peuplé de colère, d'exil et peut-être d'espoir. Mais c'est aussi un roman ancré dans notre mémoire collective, celle de la marée noire de Lamoco Cadiz. Jean-Philippe Goulet, je vous le disais, vous êtes l'auteur, vous signez un retour puissant en librairie avec ce texte hybride, poétique et politique qui réinvente le mythe de la sirène pour mieux sonder nos abysses intimes. Alors à quelques jour de la sortie officielle du roman prévu le 27 juin à la librairie Emlire à Laval, je le disais tout à l'heure, vous êtes avec nous pour nous en parler. J'ai envie de commencer cet entretien en vous posant cette question. Ce roman, c'est à la fois un récit de métaphore, un drame écologique et une fable initiatique. Par quoi est-ce que vous avez commencé à écrire ? Est-ce que c'est plutôt cette figure de l'adolescence, ce fond historique ou alors ce mythe autour de la sirène ? Qu'est-ce qui vous a intéressé en premier ?
La première idée, ce qui m'est venu au tout départ, c'était d'un adolescent de 13 ans qui se trouve projeté dans le monde qu'on fantasme beaucoup, le monde des sirènes, qu'on voit un petit peu merveilleux, fantastique, dans le sens très très positif. Et je fais suite un petit peu à mon premier roman où j'expliquais vraiment les tenants et les aboutissants de ce monde qui n'est pas peuplé d'êtres 100% positifs et avec des châteaux tout roses et voilà, où tout va bien. Donc voilà, c'était une société. Et là, un être humain catapulté dans ce monde-là, j'avais envie de sonder un petit peu les réactions qui pourraient voir le jour de part et d'autre.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de ce personnage principal, celui qu'on va suivre dans ce récit, Yann Herzel ? Comment est-ce que vous l'avez pensé ? Qui est ce jeune homme ?
Alors, Yann, c'est un garçon qui vit en Bretagne et qui a des amis, pas beaucoup, qui vit un petit peu des difficultés à l'école. C'est pas non plus un surdoué, voilà. Il est dans la moyenne et puis il est un peu chahuté par des camarades qui sont pas toujours très bienveillants. Donc ça ressemble à ce que vivent beaucoup de collégiens contemporains. Et puis c'est à l'occasion d'une sortie en mer pendant les vacances d'été, puisque le roman commence un 1er juillet, voilà, on n'est pas loin. Une sortie en mer assez classique, on va dire, sur un bateau avec son oncle. Une catastrophe se passe et le bateau fait naufrage et lui, il se retrouve plongé à travers ce monde sous-marin et transformé avec une queue de sirène, de triton, on va dire, à la place des jambes.
Alors, on a pu le dire tout à l'heure en introduction, vous en avez, j'en ai dit quelques mots, il y a une inversion forte du mythe de la sirène. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de le renverser? Quel est le point de départ? Qu'est-ce qui vous a tenté là-dedans?
Le point de départ, c'est en fait le premier roman, le premier Sirénien, qui était en fait la suite de La Petite Sirène d'Andersen, qui est un roman qui se termine très mal, puisque dans la véritable histoire, le prince ne tombe jamais amoureux de la petite sirène, il la considère comme une très bonne amie, mais ça ne va pas plus loin. Et le deal avec la sorcière, c'était de dire, si le prince ne tombe pas amoureux de toi, tu deviendras écume. Voilà, et ça se terminait sans mauvais jeu de mots, en queue de poisson, et ça se terminait très mal, et donc j'avais inventé dans le premier Sirénien la suite, voilà, c'est-à-dire comment les Siréniens ont fini par pouvoir accéder au monde terrestre. Voilà, c'est une longue histoire, mais voilà, c'est ça qui est raconté, et là j'avais envie de faire le chemin inverse avec un humain, voilà, qui va à la rencontre, bien malgré lui, mais du peuple sirénien, et donc cette rencontre entre les deux mondes.
Alors, vous situez le roman en 1978, au moment de la marée noire de l'Amoco Cadiz. Pourquoi ce choix d'ancrage historique? C'est intéressant, il y a une partie un peu écologique aussi.
Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup mélanger la fantaisie, le fantastique et le réel. Voilà. Je pense que si on ancre un roman dans la réalité, sa partie fantastique nous apparaît d'autant plus réaliste. Voilà. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Alors pourquoi? Parce que la catastrophe de l'Amoco Cadiz, qui a eu lieu le 16 mars 1978, a été la plus grande catastrophe écologique qui a eu lieu en France et une des plus grandes dans le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pétrolier qui s'est échoué sur les côtes, 230 000 tonnes de pétrole brut qui se sont répandues et 300 km de côte souillée. Donc ça paraît inimaginable maintenant, mais à l'époque ça fait grand bruit et il y a eu un mouvement de bénévoles qui sont venus de toute l'Europe, de toute la France pour venir aider, des militaires et tout. Donc j'ai voulu aussi, à travers cette histoire, raconter pour ceux qui l'avaient vécu, enfin rappeler ça à travers des témoignages. Je suis allé en Finistère à la rencontre des bénévoles, des secouristes et tout. Et puis au CEDRE aussi, au Centre de documentation de recherche sur les pollutions maritimes, voir toutes les conséquences qu'il y a eu pour la nature. Et aussi, je fais un petit peu de médiation dans les écoles et je m'étais aperçu lors d'interventions dans des écoles primaires notamment, que des enfants en Bretagne ne connaissaient pas cette catastrophe. Donc il y a aussi un but pédagogique, donc faire découvrir ce que ça a été et puis pour ceux qui l'ont vécu, leur rappeler ces souvenirs-là.
Et alors, ce qui est important dans votre écriture, dans votre travail, vous nous avez dit effectivement, vous avez mené des enquêtes, vous vous êtes plongé dans des archives. C'était important d'être au plus près de la réalité, au plus près de ces événements, de ce qu'on a pu vous raconter, de ce que vous avez pu découvrir.
Tout à fait, les témoignages, les verbatims vraiment d'époque, et puis les sources scientifiques, parce que le CEDRE, le Centre de documentation, a fait énormément de recherches sur tout ça. Donc il faut... C'est triste à dire, mais quantifier les milliers de tonnes d'animaux qui sont morts à cette occasion-là, et la nature qui a mis des décennies à reprendre ses droits, et encore, certains endroits restent pollués, restent enfouis, mais restent pollués. Oui.
Alors, il y a cette histoire, c'est la rencontre entre un jeune homme transformé et un monde imaginaire, un monde fantastique. Comment est-ce que vous avez voulu raconter cette rencontre? Est-ce qu'il y a justement cette histoire de rejet, d'acceptation, de découverte? On parle d'un adolescent aussi. L'adolescence, c'est une étape de la vie qui est importante. J'imagine qu'elle est aussi propice à raconter des choses qui peuvent mener ou pas à une identification.
C'est ça, et quand vous dites identification, ça me fait penser au mot identité, et c'est l'adolescence, c'est un âge de la vie où on se cherche, et ma relectrice, ma correctrice m'a dit, mais c'est un roman sur l'identité, en fait, c'est à travers toutes ces histoires, et je pense que c'est un peu vrai, parce que l'adolescent, rien que chez nous, dans notre vie courante, c'est pas toujours facile de se trouver. Mais là, en plus, projeté dans un monde inconnu, et on peut faire le parallèle avec aussi des adolescents qui vivent dans d'autres pays et qui sont amenés à se déplacer pour des raisons X ou Y, à changer de pays. C'est un déracinement quelque part, et donc c'est un petit peu ce que vit Yann aussi. À travers cette histoire.
Comment vous imaginez le lecteur de ce nouveau roman ? Est-ce qu'il s'adresse aussi aux plus jeunes, aux adolescents justement ?
Ah oui, tout à fait. Et j'ai voulu en fait faire pour le nouveau Sirénien comme j'avais fait pour le premier Sirénien, c'est-à-dire un roman intergénérationnel. Et j'ai eu la chance que mon vœu se réalise puisque, à force de côtoyer des lecteurs, je me suis aperçu que mon lecteur le plus jeune avait 10 ans. C'était un bon lecteur déjà, et ma lectrice la plus âgée avait 90 ans. Donc c'est un livre qui peut être lu par les enfants, les petits-enfants, les parents, et ça permet le dialogue aussi intergénérationnel. Et j'ai voulu reproduire la même chose pour le deuxième, bien que bon, les thèmes abordés vont peut-être pas commencer à 10 ans, mais disons 13 ans, c'est bien.
Alors c'est une histoire qui est à la fois ancrée dans notre histoire, mais qui est aussi donc la création d'un monde, celui des abysses. Et vous avez parlé tout à l'heure du fait que ces abysses sont aussi une société. Comment est-ce que vous l'avez construit ? Comment est-ce que qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre dans cette société imaginaire quand on en a déjà une sous nos yeux avec ses failles et avec ses failles ? Qu'est-ce qu'on raconte quand on veut en confronter deux mondes en fait ?
En fait, c'est le rêve de beaucoup d'auteurs, c'est un peu faire comme C.S. Lewis ou Tolkien, c'est créer notre propre monde. Et donc, j'ai voulu que ce monde sous-marin, ce monde sirénien, soit le plus positif possible, le plus tolérant possible. Mais à l'intérieur de ce monde, il y a différentes communautés, certaines qui sont un peu plus tolérantes les unes que les autres et qui acceptent plus facilement l'autre. Mais comme dans notre société aussi, il y a des troubles faits qui arrivent malheureusement. Par exemple, là, le roi qu'on avait déjà dans le premier, le roi des océans qu'on avait déjà dans le premier, ben, il arrive au terme de sa vie, puisque les Siréniens, comme tout le monde le sait, vivent 300 ans. Et donc c'est déjà un bon bail. Donc tout le monde souhaitait le voir continuer, mais bon, voilà. Et il va se mettre en quête d'un successeur. Et puis là, ça ne va pas se passer avec des gens aussi bienveillants qu'ils le pensaient. Donc c'est une histoire qui vient se rajouter à l'histoire de Yann.
Si on parle de l'écriture, il y a une part poétique qui est importante également pour vous, poétique et politique. Comment est-ce que vous travaillez quand vous vous plongez dans l'écriture d'un roman comme celui-ci ? Vous avez déjà, j'imagine, la trame. Vous vous levez le matin et c'est parti, c'est assez fluide. Ou est-ce qu'il y a des moments où on re-questionne, où on se perd, où on se retrouve dans la trame et dans le récit qu'on est en train d'écrire et de faire naître ?
Eh bien, disons que pour l'écriture de... Alors, bien sûr, je travaille avec un plan. Il y a des auteurs qui ne le font pas, mais moi, je ne pourrais pas travailler sans plan. J'avais le début de l'histoire, j'avais la fin, mais tout le milieu restait à construire. Et c'est le plus important. Alors, quelquefois, j'étais dans l'impasse et ça met beaucoup de temps à se décanter. Il faut beaucoup réfléchir. Et en fait, dans la vie de tous les jours, j'ai une autre activité professionnelle, mais ça n'empêche que pendant ce temps-là, le cerveau, inconsciemment, travaille toujours sur le contenu de l'histoire. Et puis, à un moment donné, c'est la magie, on ne sait pas pourquoi, et les idées viennent. Voilà.
Est-ce que... cours d'écriture, vous apprenez vous-même à rencontrer peut-être ce personnage de ce garçon que vous mettez en avant, qui va finalement dérouler le récit pour le lecteur. Est-ce que vous-même, vous le rencontrez un peu plus au fur et à mesure de l'écriture ? J'imagine qu'on qu'on construit ce personnage, mais à un moment, on se laisse surprendre peut-être par lui aussi.
Oui, et c'est totalement vrai, et même pour le personnage principal, mais pour les autres aussi, parce que aussi bien le personnage principal que les personnages annexes ont des vraies personnalités et qui se construisent au fur et à mesure de l'écriture, même si, de par leur nom, ils ont déjà une identité qui est un petit peu... Les noms sont suggestifs, voilà, comme ce sont des noms imaginaires. Mais c'est vrai que l'identité se construit de par leurs réactions et puis les faire vivre entre eux, les faire dialoguer, c'est un pur bonheur.
Qu'est-ce que vous aimeriez que ressente le lecteur à la fin de pendant la lecture, à la fin? Est-ce que c'est une lecture qui nous met... on se sent bien, ou est-ce que c'est aussi quelque chose d'un peu angoissant qui nous travaille?
C'est sûr que le livre aborde énormément de sujets, énormément de thèmes, et qui vont toucher beaucoup de monde, parce que ça a beau se passer sous l'eau, il y a une partie dans ce livre qui se passe aussi sur Terre, puisque Yann va être sauvé par une sirène, on va dire qu'il va vivre sa vie sous l'eau, mais il y a ses parents qui ont survécu, qui vont être hospitalisés. Donc il y a beaucoup, on peut recouper ça avec notre vie quotidienne à nous, avec des gens qu'on connaît et tout. Et moi, je voudrais que les lecteurs ressentent de l'empathie avec les personnages, et puis aussi un grand message d'espoir à la fin, voilà, avec beaucoup d'émotion. Et c'est un livre aussi qui fait une belle part au féminisme, parce que je pense que la société sirénienne est une société beaucoup plus dominée par les femmes, par les sirènes que la nôtre. Et il y a fort longtemps, il y a eu une grande bataille, une grande guerre parmi les siréniens, et ils ont décidé de mettre à la tête de chaque communauté des reines plutôt que des rois, parce qu'elles étaient beaucoup moins belliqueuses. Voilà. Et donc, je continue dans cette veine-là avec une belle part faite au féminisme.
Donc on ouvre des portes sur les sujets qui nous préoccupent tous en ce moment. J'ai envie de vous poser une dernière question, enfin d'en parler, de le souligner en tout cas. Vous avez une très belle illustration aussi de couverture pour cet ouvrage. Comment est-ce que vous le pensez? Comment vous travaillez peut-être avec la personne qui vous accompagne sur ce projet?
Oui, c'est vrai que l'illustrateur a beaucoup de talent. Il s'appelle Théo Gabillard. Je lui ai demandé, il n'avait jamais... C'est un très bon illustrateur, mais c'est pas son métier principal. Et là, il s'est surpassé. Il a fait quelque chose de magnifique. Donc, je lui ai donné la trame de ce que je souhaitais. C'est une illustration d'une scène forte de l'histoire. Et puis, il a fait ce travail vraiment remarquable.
Vous serez le 27 juin à la librairie Emir à Laval pour le lancement. C'est aussi le jour donc officiel de la publication du livre. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec vos lecteurs?
Eh bien, écoutez, c'est la librairie Aime Lire me fait le grand plaisir de m'accueillir pour ce lancement. Lors du premier roman, j'étais pas connu du tout, j'avais pas de base de lecteurs, donc voilà, le lancement s'était fait tout simplement. Et mais là, donc à la librairie, j'attends peut-être de rencontrer des gens qui vont découvrir pour la première fois le monde des Siréniens. On va pouvoir en parler, et puis aussi des lecteurs qui connaissent, qui ont déjà eu le tome 1 entre les mains, et puis qui vont pouvoir le lire. Et je tenais aussi à préciser que le tome 2 peut se lire indépendamment du tome 1, parce que c'est une suite vraiment dans l'univers, bien sûr, mais il y a des personnages communs, mais les personnages principaux sont différents. C'est vraiment une suite qui peut, une histoire qui peut se lire à part entière, toute seule.
Et alors, à quel horaire est-ce qu'on peut vous retrouver à la librairie Amir?
Ça sera à partir de 17h, 17h-19h. Oui.
Bien, merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe Goulet, d'avoir été avec nous. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Le Nouveau Sirénien, qui paraît donc le 27 juin. Et vous donnez donc rendez-vous à nos auditeurs et à vos lecteurs à la librairie Amir. Merci pour ce moment passé ensemble.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Et alors, en attendant de plonger dans les abysses, on s'écoute un peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute, Maxime? Dis-moi.
On va écouter la musique 320 de Satin Valley.
Change la donne, décision, je prends les bonnes. J'attends plus que le réveil sonne. Rien à perdre, j'ai tout à gagner. Y'a trop de fois, je peux plus. J'ai des idoles à égaler. Je sais que je peux y arriver. J'ai pas toqué t'es la cage. C'est que le début du voyage. J'ai trouvé comment dompter ma peur. Pour éradiquer la douleur. Je suis prête à tourner la page. En moi le feu se propage. J'ai un incendie dans le cœur. Et ça chauffe comme un rêve.
Depuis le début de cette série, on suit Charlène dans son lien à la terre, aux gestes, aux fleurs. Mais aujourd'hui, on regarde un peu plus loin que les rangées de Cosmos ou de Dahlia. Ce dernier épisode parle d'accueil, de transmission, de tout ce que ce lieu fait naître autour de lui. On est de retour à l'étang de papier. À force de faire pousser des fleurs, Charlène a vu naître autre chose autour d'elle, des envies de partage. Dans ce dernier épisode, on écoute comment la ferme va devenir peu à peu un lieu vivant, traversé, habité, un espace qui se cultive aussi par ceux qui y passent. Tu travailles tout à la main, on peut le dire. Qu'est-ce que ça change dans ton rapport à cet environnement au quotidien ?
Je pense que c'est surtout une prise de conscience... on en revient même, mais préserver la biodiversité, conserver tout ça. Et puis en fin de compte, on n'a pas besoin que nos gazons soient tondus. Enfin, la tonte raisonnée, c'est bien. Garder des espaces pour les hérissons, tous les petits animaux qui ont besoin aussi de ça, quoi. Puis c'est eux aussi qui régulent tous les parasites que l'on peut avoir sur nos plantes. Les pucerons que je vais avoir sur mes tournesols et de ça, si je tondais tous les jours, si tout était désherbé, les pucerons ils iraient directement sur mes fleurs, alors que là, ça arrive qu'ils soient sur des mauvaises herbes. Tout ça à côté, en fin de compte, je me dis cool, quoi, parce que les coccinelles vont arriver avant qu'ils viennent s'installer sur mes cultures.
Quand tu penses à l'avenir de ce lieu-là, comment est-ce que tu te projettes ?
Maintenant, j'aimerais faire davantage de visites, d'agrotourisme, pour vraiment faire découvrir le lieu et ramener vraiment que les gens puissent aussi se déconnecter, on va dire, et se recentrer un peu plus sur la nature et l'extérieur. Un peu d'agrotourisme et de visites du jardin, c'est vraiment le projet de l'étang de papier.
Ce dimanche 29 juin de 10h à 18h, c'est la porte ouverte et donc l'inauguration de ta ferme florale, l'étang de papy. Ce jour-là, mais aussi pour la suite de ton projet, ce qui compte pour toi, c'est la transmission.
Oui, la transmission est importante pour moi. Là, c'est le temps du lancement, mais je fais déjà le marché du Lion le vendredi. Mais j'ai prévu de faire quelques ateliers dans l'été et puis surtout les années qui suivront.
Est-ce que toi, ça a changé des choses chez toi, de vivre ici, de travailler comme ça ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes, que tu imaginais, pas toi-même, que tu ne projetais pas forcément ?
Non, ça va être surtout l'adaptation de mes enfants, en fait, parce que du coup, je les ai beaucoup plus souvent, notamment les soirs. Et en fait, de prendre ce projet à cœur et de dire « Oh là là, maman, ta ferme florale, elle est trop belle !» et de vraiment se sentir impliquée, en fait, avec moi et de vouloir faire des bouquets et de composer, ça, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que c'est vrai que pour le coup, les enfants, ils sont énormément adaptés à cet espace extérieur où vraiment, il n'y a plus d'écran et c'est 100% naturel. 100% petite grenouille, viens, on va à la pêche, on va voir ce qu'il y a là-bas. Oh là là, le renard dans la forêt, les faisans, ouais.
Quand on se lance dans un projet comme ça, j'imagine qu'il faut un peu de temps pour se lancer. Aujourd'hui, est-ce que tu es assez sereine sur ton avenir professionnel? Est-ce qu'il y a des défis encore à relever?
Alors oui, c'est vrai que cette année, c'est vraiment une année test qui va permettre de me lancer et également de me faire connaître parce que, j'ai travaillé à temps plein comme auxiliaire de vie jusqu'au 15 mars. Donc voilà, le lancement se fait petit à petit, mais je suis plutôt assez confiante sur la suite.
Je te propose qu'on rappelle à l'auditeur de l'autre radio le rendez-vous qu'on lui donne ici à la Jaillivon.
Le dimanche 29 juin, de 10h à 18h, on organise les portes ouvertes de la ferme. Et il y a pas mal d'ateliers qui sont mis en place sur toute la journée, donc il y a un programme qui est plutôt chouette. Et il y a également une vingtaine de producteurs, artisans et créateurs locaux qui viennent exposer sur place. Voilà. Alors, la ferme florale se situe à la Jaillivon, donc c'est direction route de Ménil. Et ce sera indiqué, mais c'est 630 route de QC.
Ce dimanche 29 juin, à partir de 10h, la ferme florale L'Étang de Papy vous ouvre ses portes. Au programme, une balade sur les plantes sauvages pour commencer la journée, suivie d'une visite guidée de la ferme florale avec Charlène. Puis ensuite, ce sera un pot offert par la ferme. C'est un programme ouvert à tous. L'après-midi continuera avec un atelier composition d'un petit bouquet. Sera suivi ensuite d'un atelier culture et bouturage de succulentes. Et ça se terminera à partir de 15h30 avec un atelier proposé aux enfants. La confection d'un animal enfoué, la cuisson par le boulanger est prévue sur place. Attention pour les ateliers, pensez bien à réserver en amont. Et oui, il y a des lieux qu'on cultive et d'autres qu'on ouvre. À l'étang de Papy, les deux se confondent, on y sème des graines, oui, mais aussi des idées, des gestes à transmettre, des façons plus douces d'habiter le monde. Et quand les fleurs poussent, Charlène ne les garde pas pour elle, elle invite, elle accueille, elle partage. Alors si vous avez envie de découvrir ce lieu autrement qu'en mots ou en son, le rendez-vous vous est donné ce dimanche 29 juin à la Jaillivon, à l'étang de Papy. Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Dans quelques instants, on retrouve Soizic et sa chronique Un autre écho de l'écho. Mais avant ça, Maxime, tu nous mets du son dans les oreilles.
Et oui, on va écouter une chanteuse qui nous manque, Idila, avec sa dernière musique d'il y a 5 ans déjà, qui s'appelle Parle à ta tête.
Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seul, caché sous mon ombrelle. S'te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi, la morale à plat. Et je fais le mariole, parfois je démarre. Mais j'en ai marre très vite, je peux démarrer de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Oui. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te le répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, ne me mens pas. Où j'ai dit le mot pas. C'est bien trop pour moi. J'y crois, je donnerai tout sans rien garder, sauf ta réalité.
vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio et nous voilà arrivés au moment de la chronique du jour, un autre écho de l'écho. Bonjour Soizic, alors aujourd'hui il paraît que vous voulez vous fâcher avec un peu tout le monde.
Eh oui, bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh ben oui, c'est un petit cadeau que je me fais pour partir en vacances. J'ai décidé de me fâcher avec 75% des auditeurs. Bon, ma faim. Alors pourquoi ? Ben parce que, comme le disait Lénine, tiens, hop, une petite raison supplémentaire de me faire des ennemis. Eh bien, les faits sont têtus et contre les chiffres, eh ben, on ne peut pas grand-chose.
Mais pourquoi 75% ?
Eh bien, figurez-vous que c'est parce qu'aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'impôt sur les successions, tabou s'il en est, et que 75% des Français pensent que l'impôt sur l'héritage est injuste et qu'il est trop lourdement, et que l'héritage donc est trop lourdement taxé, alors qu'en fait, ils connaissent rarement les modalités de cette taxation. Alors d'abord, un petit point technique rapide. Margot, si vous laissez, alors peut-être pas vous, peut-être plutôt vous laissez, jusqu'à 100 000 euros, si vos parents vous lèguent jusqu'à 100 000 euros, eh bien, sachez que vous ne paierez strictement aucun impôt. Seuls les euros au-delà de ce seuil seront taxés à 20%. Mais par ailleurs, si vous héritez d'une assurance vie de qui que ce soit et de quelque montant que ce soit, là encore, zéro euros d'impôts. Et enfin, vous pourrez, dans l'avenir, donner à vos enfants jusqu'à 150 000 euros tous les 15 ans sans aucun frais de succession. Alors Margot, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'État français assomme les héritiers d'impôts outrageusement prélevés ? Et pourtant, le plus étrange, alors que les Français, je l'ai dit, sont quasiment unanimes à conspuer cet impôt, eh bien l'INSEE indique que moins de la moitié d'entre eux héritent. Et parmi ces chanceux, eh bien 87% ne paient aucun impôt au vu de montant hérité, donc moins de 100 000 euros. Et les plus chanceux, ceux qui héritent d'un gros patrimoine, eh bien sachez que dans les faits, ils ne paient qu'en moyenne 5% d'impôt sur le pactole. Alors, ceci étant posé, l'héritage pose quand même deux questions. La première est celle du mérite. En quoi Jean-Eudes, qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts, ni de sa vie en général d'ailleurs, et pour qui le bien commun reste un concept plus que flou, mérite-t-il de bénéficier d'une manne providentielle qui lui permettra de continuer de se la couler douce ? Pendant que Jonathan se désingra, lui, la santé, à désosser du cochon par 4 degrés dans l'abattoir du coin, 35 heures par semaine, pendant 43 ans, moyennant un salaire et une retraite de survie. En fait, en quoi mérite-t-on un héritage sous seul prétexte qu'on a eu la chance de naître dans une famille un tant soit peu aisée ? Alors la deuxième question, la seconde question, pardon, parce qu'il n'y en a que deux, est plus macro-sociétale. Elle concerne les inégalités qui, rappelons-le, ne cessent de s'accroître depuis les années 80. Thomas Piketty, économiste que l'on ne présentera pas, ou plus plutôt, montre bien que ces inégalités s'expliquent avant tout par l'accumulation des richesses permises par l'héritage. Alors en effet, la part de la fortune héritée dans le patrimoine français est aujourd'hui de 60%, alors qu'elle n'était que de 35% au début des années 70. Et en 2024, parmi les 9 nouveaux milliardaires français, eh bien 7 étaient des super héritiers ou héritières. Autrement dit, ces milliardaires le sont devenus uniquement grâce à la fortune familiale. Alors vous voyez Margot, bah pour devenir riche, il vaut mieux hériter que travailler. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas très républicain. Et que l'égalité des chances, bah, du coup, elle en prend un sacré coup. Alors je vais vous citer encore quelques chiffres très impressionnants. Alors que le PIB français est de 2600 milliards d'euros, eh bien d'ici 2040, ce seront 9000 milliards d'euros qui vont être hérités. Vieillissement de la population oblige. Ce sera le plus grand transfert de richesses privées en France qui n'ait jamais existé. Alors bien sûr, les bien-nés argueront que l'héritage est un acte anthropologique de la volonté de l'humain de transmettre à ses enfants. Sauf que, jusqu'à la Révolution, seuls les aînés mâles héritaient. Et qu'actuellement aux États-Unis, vous pouvez parfaitement transmettre vos biens à qui vous voulez, vous pouvez même déshériter votre enfant, donc l'argument d'un besoin quasi naturel de transmettre, bah ça tient pas. Et en plus, à l'heure des déficits publics gigantesques et des besoins en santé, en éducation, en écologie, ne faudrait-il pas repenser l'héritage collectivement ? Par exemple, alors qu'aujourd'hui les héritiers sont en moyenne âgés de 60 ans, eh bien Piketty, toujours le même, propose un héritage pour tous de 120 000 euros à 25 ans et basta pour le reste de votre vie. Que les méritants méritent le reste de leur fortune. Et puis, une autre nuisance de l'héritage, et celle-ci pas la moindre, eh bien, bien sûr, c'est le déchirement des fratries, l'expérience mesquine de la cupidité et des règlements de compte affectifs. Les notaires témoignent tellement souvent de ces guerres des tranchées familiales. Et enfin, ou plutôt, et surtout, il y a cet autre héritage dont on ne mentionne en revanche jamais le coût, c'est celui de la pauvreté. Parce que si l'on hérite de la richesse de ses parents à moindre frais, on hérite également de la misère économique et culturelle de sa famille, et là, le coût individuel et sociétal en est autrement élevé.
Merci beaucoup, Soazic.
Merci et bonnes vacances à vous tous.
Bonnes vacances, Soazic. L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Philippe Goulet pour l'interview du jour. Merci à Charlène pour son accueil à l'étang de Papy. C'était le dernier reportage de cette série aujourd'hui. Puis merci à Soazic, notre chroniqueuse du jour. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, Maxime, sur nos ondes?
La soirée débute avec l'émission Novorama à 19h. Comme chaque semaine, on aura une sélection de nouveaux albums indie rock, pop électro avec des chroniques et une interview d'un groupe ou artiste émergent.
Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, même sans lui écrire. Parfois les pensées voyagent mieux que les messages. Vous le méritez. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.